Après tout ça, quels sont les intérêts pour le croyant de croire en la prédestinée? Déjà, premièrement, ça contribue à la complémentarité de sa religion. Car comme on vient de le dire, si ce point-là manque, tout le reste s'effondre. Donc en croyant en ce pilier-là, tu as complété ta religion. Ta religion est complète. La deuxième chose, c'est que croire en ce pilier-là apporte aux croyants rahatul bal, la paix de l'esprit. Il ne se tire pas les cheveux pour ce qui arrive dans sa vie de tous les jours. Comme Allah a dit dans le Coran, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Pour que vous ne soyez pas attristés pour les choses que vous avez ratées ou qui vous ont manqué, ni que vous soyez trop joyeux pour les choses qui vous ont atteintes. On sait que ce qui arrive n'arrive que parce qu'Allah l'a voulu. Et donc forcément, on ne se fait plus de mauvais sang. Quand on a cherché à avoir quelque chose, mais qu'on n'a pas réussi à l'avoir, on ne va pas se lamenter, on ne va pas se morfondre, on ne va pas tomber dans la dépression. C'est pour ça aujourd'hui, mes frères, wallah, quand j'apprends, quand on entend qu'il y a une profession qui s'est développée, malheureusement, encore une fois, après, peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas de mauvaises intentions, je ne fais pas d'un cas de généralité, nous avons énormément d'opportunistes parmi nous, malheureusement. Donc, comment dirais-je? C'est l'effet boule de neige. Donc, on a des musulmans dont la foi en la prédestinée est très faible. On ne va pas dire qu'ils ne l'ont pas. La quine, elle est vraiment très faible. Résultat, quand il leur arrive des choses dans leur quotidien, ils sont touchés par ces choses-là. Quand ils veulent des choses et qu'ils ne les obtiennent pas, ils sont tristes. Alors, ils tombent et sombrent dans ce qu'on appelle la dépression. Dépression qui est, en plus d'être une maladie contemporaine, est une maladie occidentale, à la base. Avant, t'allais dans les pays que les Occidentaux appellent sous-développés, c'est fou quand même. T'avais des gens qui vivaient de rien, qui vivaient dans des situations, des circonstances très difficiles, la guerre, la maladie, la famine, la pauvreté, et ils n'étaient pas dans les dépressifs. C'était des gens, c'était murtahin. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que les gens en Occident possèdent des choses que les gens ailleurs ne possèdent pas et pourtant développent des maladies qu'on ne trouve pas ailleurs? Et parmi ces maladies, donc la dépression. Et ce qui prouve qu'en fait, c'est le matérialisme qui tue le spirituel. Comme on l'a toujours dit, il y a le matériel, il y a le spirituel. On ne peut pas avoir les deux. C'est pas possible. Celui qui est un être spirituel n'a pas d'attache au matériel. Qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, ça ne le change pas. Mais l'être matériel, c'est ce qu'il possède qui fait ce qu'il est. Car il n'est pas spirituel. Alors forcément, quand il aura, il se sentira meilleur. Et quand il perdra, alors il se sentira ne plus, il sentira comme s'il n'existait plus. Donc, je reviens à l'effet boule de neige. Foi. Faiblesse de la foi en la prédestinée, dépression qui, en fonction de l'intensité, engendrera soit des suicides, soit des gens qui abandonnent tout, des défaitistes, des fatalistes, ainsi de suite. Et dernière étape, les fameux opportunistes, psychologues musulmans, soi-disant, qui ouvrent des cabinets pour régler le problème. Mais comment est-ce qu'ils essayent de le régler ce problème? Pas avec des solutions islamiques, alors qu'ils se prétendent psychologues musulmans. Parce que si tu as un musulman en face de toi, tu es conscient que la cause de sa dépression, c'est sa faiblesse dans la foi, en la prédestinée. Donc le remède, c'est de renforcer cette foi-là. Lui, non. Il va utiliser des méthodes de psychologie pour régler un problème de foi. Résultat, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a un frère que je connais, il s'intéressait à la psychologie et il a commencé à faire des cours du soir dans ce domaine-là. Puis il a commencé à côtoyer des psychologues musulmans. Et une fois, il a assisté à une séance d'un psychologue musulman qui reçoit une personne déprimée. Première chose qu'il fait, il lui tend une feuille. Et il lui demande de dessiner un arbre. Je ne vous avais pas dit ça la dernière fois, je me souviens ça. Un arbre. Mais moi, dessine un arbre. Bon, d'accord. Alors, il dessine un arbre, tu sais, on n'est pas tous Picasso. Hein. Bon, même Picasso, ce n'est pas forcément un bon exemple. On n'est pas tous, Monet ou bien De Vinci. Donc, il dessine un arbre assez basiquement, un trait, des traits en haut, des traits en bas, des ronds pour les feuilles, et voilà, ce que tu faisais quand tu avais 4 ans en maternelle. Et là, le psychologue, il prend la feuille comme ça, il l'observe, il me dit « Ah, toi, tu as des problèmes avec ta mère, avec tes parents. » Je dis « Non, mes parents, je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup, on s'entend très bien. » Il fait « Non, 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 non. Ton arbre, là, les racines, elles sont très courtes. Si tu avais fait des racines longues, ça aurait montré ton attachement à tes origines, qui est la terre, donc tes parents. Non, mes parents, ils vont très bien, alhamdoulilah, je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup, j'ai aucun problème avec eux, on s'entend très bien, on se voit tous les jours, il n'y a pas de problème. » C'est ce que tu crois. Mais psychologiquement, ce n'est pas le cas, il y a quelque chose. Est-ce que dans ton enfance, c'est fou quand même. C'est-à-dire, il veut t'imposer son interprétation de la chose. Mais dis-moi, Bilal, elle est où la différence entre toi et le docteur Silverstein qui a son cabinet à l'avenue Foch sur Paris là. Où est la différence? Il n'y en a aucune. Il n'y en a absolument aucune. Et si ça vous paraît fou, ce qui est plus fou que ça en vrai, c'est qu'un musulman est déprimé. C'est qu'un musulman est déprimé. Et tu pourras juger de la faiblesse de la foi d'une personne dans ce pilier-là en fonction de la présence de la dépression. Parce que le croyant, il ne doit pas être déprimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'affaire du croyant est pour lui un bien. Absolument. Et que ce soit un bien ou un mal, pour le croyant, c'est un bien. Donc il est mortel. Il est tranquille, dans sa tête, il ne se casse pas la tête. Ce qu'Allah veut sera, et ce qu'il ne voudra pas, ne sera pas. Et le hadith d'Ibn Abbas. Non. Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Si toutes les créatures ça se réunissaient pour t'apporter un bien, il n'y arriverait que si Allah te l'a écrit. Et s'ils se réunissaient pour t'apporter un mal, il n'y arriverait que si Allah te l'a écrit. Les plumes sont levées et les pages sont sèches. Quand toi tu sais ces choses-là, pourquoi te faire du mal? Pourquoi? Pourquoi te morfondre et te lamenter jusqu'à tomber dans le désespoir et déprimer? Là, c'est pas ça que le croyant fait. Donc on a dit, il complète sa religion, il est à l'abri de la dépression et il est apaisé en lui-même et ça lui permet de ne pas justement manifester du mécontentement quand un malheur le touche. Il sait se retenir, il sait se contenir. Il dit quoi ? Qaddara Allah ma sha'a fa'al. C'est ce que le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a déterminé, l'a destiné, et il fait ce qu'il veut. Et quand tu sais, toi, que la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est liée à sa sagesse. Quand Allah dit fa'alu lima yurid, il fait ce qu'il veut. Celui qui t'a informé qu'il faisait ce qu'il voulait, t'a informé qu'il avait la sagesse la plus absolue. Et qu'il ne fait pas les choses au hasard, sans raison. Hacha. Donc si il se passe une chose dans la création, c'est qu'Allah il a voulu. Et si Allah il a voulu, c'est pour une sagesse. Et tu pars du principe où Allah il veut le bien pour toi. Et il le veut pour toi mieux, plus que tu ne le veux pour toi-même. Donc, il y a forcément un bien dans ce qui s'est passé. Même si tu ne comprends pas ce bien-là, tu ne le vois pas, il y en a un. Alors, garde ça en tête lorsque le mal te touche et tu verras qu'il te sera plus facile de l'accepter, de l'avaler à ce moment-là. Après, tu peux ressentir en toi ce sentiment. Lakin, ce qui t'est demandé, c'est de le contenir et de ne pas le laisser sortir. C'est ça l'obligatoire, sabr. Quant au stade supérieur qui est al-rida, la satisfaction, heureusement pour nous, ce n'est pas une obligation. Mais c'est, bien entendu, une preuve de la force pardon, de la foi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure. Si il est recommandé d'être satisfait de ce qu'Allah a déterminé et de ce qu'Allah t'a destiné, il est interdit de ne pas l'être. Et si être satisfait montre la force de la foi, ne pas l'être montre la faiblesse de la foi. Et le prophète nous a appris aussi à dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasoula. » Quand tu dis « Raditu billahi rabba », qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est une chose qu'on dit dans « Adhkar al-sabah wa al-masa ». C'est une chose qu'on répète même après l'adhan. « Raditu billahi rabba ». J'ai agréé, accepté, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Et « Rab », comme on l'a dit, c'est un terme général qui englobe plusieurs sens, parmi eux « Al-Mudabbir ». « Al-Mudabbir », c'est celui qui gère toute chose. C'est lui qui choisit. Tu seras grand, petit, gros, maigre, fort, faible, beau, laid, intelligent, bête, j'en passe et d'autres. C'est lui qui choisit tout ça pour toi. Et si c'est lui qui choisit, tu dois être satisfait de son choix. C'est ça, « Raditu billahi rabba ». Il ne faut pas se contenter de répéter ces formules que le prophète nous a enseignées, allez, sans les comprendre et surtout sans les vivre. Et d'ailleurs, le fait qu'on nous demande de les répéter aussi régulièrement, tous les jours, après le Fajr, après l'Asr et après chaque appel à la prière, t'imagines-toi ? Ça fait, en plus, selon une version du hadith, tu le répètes trois fois. Une autre version, tu le répètes qu'une seule fois. Après, on ne rentre pas dans la divergence. Est-ce qu'on fait un ou trois ? Mais dans tous les cas, on part du principe, on le lit trois fois. Donc deux fois par jour. Ça fait six. Puis, après chaque prière, cinq, ça fait 11. C'est-à-dire que tous les jours, tu répètes « Raditu billahi rabba » 11 fois. Tous les jours, si tu es assidu à tes invocations journalières. C'est dans quel but, mes frères ? C'est quoi l'intérêt ? C'est de se le répéter jusqu'à s'en convaincre. Et comme ils disent les savants, « Ma takarrara, takarrara ». Ce qui se répète s'installe. C'est pour ça que dans les pubs, on a le principe de slogan. C'est ça. Et c'est pour ça que toi, des années après, le slogan, tu ne l'oublieras jamais. Aussi marrant ou aussi stupide puisse-t-il paraître, tu ne l'oublieras jamais. Quand tu en as marre, il y a mal à marre. Et j'en passais d'autres. C'est comme, tu as vu les campagnes politiques, quand il y a des élections. Pareil, eux aussi, ils ont des slogans qui répètent à longueur de temps. Ça, c'est des techniques qui sont connues et qui sont très utilisées. Très utilisées, les phrases d'approche. Hein, ce qu'on appelle dans le monde du cinéma les punchlines. Pareil, il y a des phrases qui sont prononcées, ça y est, elles rentrent dans les, comment dirais-je, dans les mœurs, et elles deviennent même des proverbes. Le principe de proverbe aussi. Une phrase toute faite qui correspond à une circonstance et qu'on citera à chaque fois que cette circonstance-là se reproduira. Donc, le principe de répéter à longueur de temps la même chose, c'est pour que cette phrase-là passe du texte à la croyance. Du texte à la croyance. Donc toi, tu dis 11 fois tous les jours « Raditu billahi rabba », mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? J'agrée Allah comme maître, comme créateur, comme régisseur, comme seigneur. Donc quand il décide pour toi que tu es ou que tu sois privé, alors répète « Raditu billahi rabba ».